Et après la pause ou pas
13h.
Voilà.
C'est jingle party.
Moi, il me fait
là.
Peur, c'est jingle party. Mais qu'est-ce que
c'est jingle?
Mais dites-moi, ça va ou
je suis payé au jingle maintenant.
Non, mais vous êtes les moufles. Jingle party. Bon, la question essentielle, mesdames, messieurs, dans la vie, c'est comment ça va? Et on est tranquille aujourd'hui, on est comme à la maison.
Pourquoi pas, avec un peu plus de légèreté, notre ami Jacques Offenbach. À tout de suite.
Et vous pouvez réagir de 11h à 13h avec Pascal Praud sur Europe 1 en composant ce numéro. Belle matinée sur Europe 1. Et vous pouvez réagir de 11h à 13h avec Pascal Praud sur Europe 1 en composant ce numéro. Belle matinée sur Europe 1.
Mais oui, ça va, oui, évidemment. Bon, à Pascal, qui n'a rien laissé passer aujourd'hui. D'ailleurs, Monsieur Boubou, qui s'y présente, a fait les frais.
Un petit message ? Allez.
Bah, pourquoi un petit ?
Mais oui, pourquoi un petit ? Un gros message, peut-être ? Le débat s'est installé.
Un message. Pourquoi serait-il petit? Pourquoi ce message doit-il être petit?
Ah non,
forcément.
Alors, non, vous commencez
non,
pas.
Mais
avec
vraiment,
moi,
non, c'est énervant
non,
ça aussi.
Passons là aujourd'hui. Pas maintenant, monsieur.
Mais pour une séquence réussie, il faut une belle envolée, une blague pour terminer le tout. Oh.
Non.
Surtout message, un grand message, un message d'espoir peut-être.
Ah, ça c'est pas mal. J'aime bien ça. Message d'espoir. Oui.
Belle Hélène.
Je l'ai.
11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1.
Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente nuit et vous donne rendez-vous à 11h sur Europe 1.
Parmi les invités de Pascal Praud cette semaine, il y aura Anthony Delon. Il viendra nous parler de son roman Bastingage, paru aux éditions Fayard. Ce sera vendredi. Si vous souhaitez lui poser une question, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21. C'est le numéro du Standard d'Europe 1. Vous laissez un petit message et on vous rappellera. Il vient aussi de publier un roman aux éditions Fayard. C'est Didier Barbelivien. La seule façon d'aimer, c'est le titre de son roman. Il a 70 ans. L'auteur, compositeur, interprète se dit heureux en amour. 70 ans, c'est aussi le titre de son nouveau morceau. On l'écoute et puis juste après, on retrouvera Valérie Darmon dans la libre antenne d'Europe 1 en nouvelle diffusion.
70 ans, rarement mal à la tête, plus jamais mal aux dents. 70 ans, même avec des lunettes, on voit plus comme avant. 70 ans, collés sur Internet, des cyberdébutants, des cyberdépendants. 70 ans, les yeux à la fenêtre, tournés vers l'océan. Rêver de goélettes au bar des goélands. Des copains qui se répètent, des copains fatigants. Sont jamais contents. 70 ans, une épouse qui s'inquiète pour ses petits-enfants. 70 ans, planqués sous nos casquettes, on s'en fout des cheveux blancs. 70 ans, on reconnaît nos défaites, on est des bons perdants. On est des bons vivants. 70 ans, on fait de la bicyclette sous la pluie en plein vent. Pour garder la silhouette qu'on avait à 20 ans. Ni gamma, ni diabète, un cœur de résistant. Un cœur toujours battant. 70 ans, difficile la retraite, ça manque un peu d'argent. 70 ans, des envies d'amourette, quelquefois en passant. 70 ans, et pour rester honnête, ça fonctionne moins souvent. Ça fonctionne autrement. 70 ans, on aime bien faire la fête, mais on boit plus autant. C'est pas vieux, oui, peut-être. Mais quand même ça se ressent. C'est l'âge où on se souhaite, devant l'horloge du temps, à voix basse en souriant. Rendez-vous dans 10 ans.
70 ans, Didier Barbelivien, que vous retrouvez dans son émission Dis-moi ce que tu chantes, c'est tous les dimanches de 17h à 18h sur Europe 1. Il y reçoit une personnalité qui lui confie les 5 chansons qui ont marqué sa vie. Et ce dimanche, eh bien, il nous propose une émission spéciale avec Enrico Macias qui célèbre ses 60 ans de carrière. Au programme de votre nuit, il y a la libre antenne d'Europe 1. Et oui, chaque nuit, on réécoute des témoignages. Et je vous rappelle que les vendredis, samedi et dimanche, c'est Valérie Darmon qui vous accueille. On la retrouve tout de suite.
Bonsoir Gwenaëlla.
Bonsoir.
Merci d'avoir composé le numéro du standard. Je le rappelle, 01 80 20 39 21. Que puis-je faire pour vous? Dites-moi.
Eh bien, je vous appelle que je vais faire un témoignage de femme pour raconter un peu mon histoire et aussi, c'est dans le but aussi, c'est pour parler au nom de toutes ces femmes, toutes ces personnes, tous ces hommes, tous ces enfants qui ont vécu des choses compliquées. Mais c'est principalement pour parler, comme Nadia juste avant. En fait, c'est moi qui ai envoyé un SMS pour dire que ses mots ressemblaient aux miens parce qu'au final, elle ressemble énormément à mon témoignage de résilience, de vie, d'amour, de réunion, de plein de choses, de vertu de la vie au final. Parce que tout ce que j'ai vécu, c'est comme un moteur, comme une énergie qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Voilà.
Bah c'est magnifique parce que c'est un formidable message d'espoir. Donc cette libre antenne est placée sous le signe de l'espoir. Hier, c'était exactement la solidarité. Voilà, des valeurs qui nous tiennent à cœur. Quel a été... Tout commence évidemment au commencement. Donc dans votre enfance, puisque vous parlez de résilience, de réunion, d'amour pour vous-même aussi.
Évidemment, oui.
Voilà, donc le chemin de résilience, il commence quand vous êtes enfant. Oui. Est-ce que c'est, le parcours est compliqué, vous l'avez dit, exactement les mots que Nadia a employés à l'instant. Compliqué dans votre bouche, est-ce que c'est traumatisant comme celui de Nadia, même si c'est pas
oui,
le mot qu'elle a... Oui,
pardon,
je vous écoute,
c'est plus, c'est plus que traumatisant, c'est un chemin de martyr, on va dire. Mais moi, c'est ma force. Et à ce jour, j'ai une joie. Et on parlait de prendre soin de l'enfant intérieur, mais aussi de l'enfant extérieur. Si je peux donner une petite explication.
Oui.
Je me suis spécialisée un peu comme Nadia pour comprendre, dans plein de choses, pour me comprendre et pour me connaître et pour comprendre ce que je vivais, pour me sauver la vie, entre guillemets. Je me suis spécialisée dans tout. Et donc, l'enfant intérieur, nous sommes faits d'extérieur, donc d'apparence, d'apparat, de chair, de matière. Et donc aussi, on est fait de subtilité d'intérieur. Donc, obligatoirement, c'est une fusion, les deux. J'espère que vous me comprenez.
Bien sûr, bien sûr, vous êtes très, très clair.
L'enfant intérieur et l'enfant extérieur, nous sommes aussi des femmes et des hommes intérieurs, extérieurs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, prendre soin de son intérieur, comme prendre soin de son corps charnel, par des soins de médecine, par de la sophro et autres. Effectivement, prendre soin de son intérieur et de son extérieur, c'est sans ça, ça fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner.
Alors, j'entends bien l'intérieur et l'extérieur, bien évidemment, ce qui ne veut pas dire que c'est l'image que l'on renvoie aux autres et être dans le regard de l'autre, évidemment. Mais pourquoi l'enfant extérieur, dont on reparlera évidemment le 19 mai lors de notre émission spéciale sur le décryptage des émotions, pourquoi dit-on l'enfant extérieur comme l'exprimait Nadia tout à l'heure?
Alors, moi, je le dis, c'est moi, si tu parles avec mon langage personnel, sur le nom de personne, ça n'engage que moi, mais je vous dis, on est fait donc de chair et de matière.
Oui, oui.
On a un corps charnel et on a aussi, il y en a qui vont parler d'âme, moi je parle plutôt d'énergie, de vibration, donc de subtilité. Donc on a la subtilité intérieure et on a notre corps de chair, de matière dont il faut prendre soin. En fait, on est une entièreté. On a les deux, on n'est pas qu'une âme, on est aussi un corps de chair et de matière. Donc l'enfant extérieur représente l'apparat, l'extérieur. Et ce que je voulais vous dire, c'est comme nous, on est une femme ou un homme, on a aussi un intérieur, mais aussi on a notre corps de matière. C'est les deux. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si tu prends soin que de ton intérieur, mais t'as ton corps aussi. Oui. T'as ton corps physique. Donc, il faut prendre vraiment soin. Comme vous disiez, être notre propre mère et notre propre père quand on a eu des parents en défaillance ou qu'on a vécu du viol, comme moi, de l'inceste, des choses compliquées. Mais moi, c'est la page blanche à ce jour. Je suis arrivée à obtenir une joie. C'est la résilience. Quoi que je vive, je suis en joie parce que j'ai complètement lâché prise, j'accueille et je sais que je sais faire. Sinon, si je ne sais pas faire, je sais aller me diriger vers les personnes qui peuvent m'aider. Et à ce jour, je suis entourée de personnes formidables. Je me suis entourée de personnes vertueuses, formidables. Et c'est ça aussi, c'est ça. C'est des belles rencontres. La vie, c'est une aventure. c'est une aventure, il y a du bien, il y a du mal, je la prends comme ça maintenant, la vie. Je prends la vie comme, comme si j'étais une aventurière, en fait.
Bah, quelque part, d'abord, quelque part, vous l'êtes plus que d'autres. Hein. Vous êtes presque une héroïne,
ouais,
parce que vous avez parlé d'inceste et ouais, de viol.
Beaucoup.
Donc, est-ce que, d'ailleurs, l'inceste, c'est aussi un viol. Hein, donc,
mais la maltraitance, beaucoup.
Voilà, d'inceste et de viol d'autres personnes. C'est ça que vous voulez dire?
Exactement. Ben oui, mais en même temps, quand on a subi ça dans son enfance, plus pratiquement 18 ans, hein, c'est énorme quand même.
18 ans, incesté pendant 18 ans, Gwenaëlle.
Oui, enfant, bébé, très jeune enfant, jusqu'à à peu près 17-18 ans, de ce que je me souviens. Et comme je connaissais que ce schéma de maltraitance, de viol, d'ultra, et que je suis autiste Asperger, j'ai été chercher le père de mon papa, le même schéma, j'ai reproduit. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais attends, tu reproduis, c'est pas possible, Gwenaëlla, tu vas, t'as été chercher, bon, ça n'excuse pas, hein. On va pas excuser de quoi que ce soit, mais j'ai compris, en fait, j'ai appris à me connaître, déjà pour pardonner, mais pour vivre en mieux-être complet, quoi. Il a fallu que je comprenne les situations, que je puisse comprendre chaque personne, le pourquoi du comment, moi aussi, donc j'ai reproduit, voilà, c'est tout, j'ai reproduit. Ça veut pas dire que j'excuse, hein. Ça veut pas dire aussi que c'est très bien ce qui s'est passé, au contraire, non, mais j'ai aussi cherché les schémas que je connaissais, moi, voilà.
À quel moment vous avez commencé à voir le puzzle se dessiner?
J'ai toujours parlé, hein. Que ce soit par le corps, parce qu'on parle par le corps, souvent quand on est autiste Asperger, on parle pas avec les mots, on parle avec le corps. J'ai toujours dénoncé, hein, on m'appelait la rebelle de la famille, le vilain petit canard, parce que j'ai toujours osé dire, j'ai eu cette force de dénoncer, de parler. J'ai toujours eu un courage hors norme. D'ailleurs, actuellement, je suis artiste de rue principalement, donc j'agis dans la rue en direct des gens pour impacter par mon art, par mon charisme, par la femme que je suis, par mon histoire, parce que j'ai ce courage-là. J'ai un courage. Je le dis, on est des êtres, des femmes et des hommes qui sont courageux quand même, remplis de force. Il faut savoir le reconnaître quand même. Ce qu'on a souffert, ça nous a incarné d'une force énorme. Et ce que je fais là aujourd'hui, je le fais aussi par amour des femmes, des hommes. C'est un acte d'amour que je fais parce qu'il y a tellement personnes qui n'arrivent pas à parler. C'est tellement difficile de le faire.
Oui, et on avait eu Jana qu'on avait reçue aussi dans l'émission et aussi en plateau, hein, puisque nous avons des petites vidéos sur europe1.fr, sur le site d'Europe 1, qui a témoigné de cet inceste aussi qu'elle a vécu enfant par son père, et qui disait que il n'y aura jamais, jamais assez de voix qui pourront s'élever pour dénoncer cela.
Exactement, exactement. Mais moi, j'ai subi ça par plusieurs personnes, hein, pas qu'une seule personne. Pas qu'une seule. Moi, j'ai subi, on va dire, des milliers de viols dans ma vie. C'est énorme. J'aurais pu mourir 1000 fois. Mais à chaque fois que j'ai vécu quelque chose, j'ai eu ce regain de vie, de survie. Je me suis dit, mais t'es plus forte et t'es née pour vivre. Et moi, j'ai un fils. Il va fêter ses 28 ans. Vous pouvez même pas vous imaginer la niaque de vie que ça me donne. J'ai été défaillante, certes, par moments, par les souffrances, par les peines. C'est mon fils aussi. Je vis pour mon fils, pour sa compagne, pour mes amis, pour ma famille. J'ai retrouvé ma famille parce que j'ai appris à me pardonner. Je me suis pardonnée et j'ai pardonné. C'est énorme, le pouvoir du pardon. L'amour de l'humanité, au final, ça m'a incarnée par cet amour qui est énorme. J'ai un amour de la vie qui est énorme. Je veux vivre et je vivrai, quoi qu'il se passe. Et je sais pourquoi je suis née. Je suis née pour parler de mon histoire, pas la laisser stérile. Je suis née pour parler en exemple, comme Nadia vient de faire. Et des hommes et des femmes le font, c'est fabuleux. Je le fais aussi en tant qu'artiste de rue.
Voilà. Alors justement, on va revenir à votre enfance après,
oui.
Mais parlez-nous d'abord donc de cet outil maintenant que vous mettez au service, hein, de la résilience, qui est cet art de rue. Vous êtes dans quelle ville ? Est-ce qu'on peut voir vos travaux quelque part ?
Alors, pas vraiment pour le moment, parce que moi j'habite Saintes, je vous explique, en Charente-Maritime, dans le 17.
Oui, à côté de Cognac, je connais très bien.
C'est une très belle ville.
Très belle ville.
Par contre, moi j'ai dû me soigner. J'ai fait le privilège, j'ai 51 ans, j'ai compris qu'il fallait absolument que je me soigne pour faire quelque chose de vertueux et que je me guérisse d'être complètement stable. Moi j'appelle ça en harmonie, j'ai retrouvé ma souveraineté, j'ai retrouvé la femme originelle que je suis. Mais par contre, j'ai dû aussi, je suis thérapeute, entre autres, mais dans la solidarité. Moi, j'ai un cœur énorme, j'offre, et je suis devenue thérapeute pour me comprendre. En fait, quand tu aides les autres, tu t'aides toi-même, hein. On le sait très bien.
Bien sûr.
Moi, j'ai eu d'abord cette intelligence, et maintenant, je passe mes messages donc d'amour, de résilience. Donc déjà, en me posant en bas de mon immeuble, dans les rues piétonnes à Saintes, et maintenant, je me lance en tant que troubadour et conteuse, parce que danseuse, parce que j'ai pas mal de... Je suis au potentiel, très haut potentiel, c'est mon Asperger que j'aime, parce que c'est ma force. Vous entendez bien.
Ça, c'est important de le dire aussi, hein, pour les auditrices et les auditeurs, bien sûr.
Non, il n'y a pas de handicap, je le dis, j'ai la niaque de le dire, il n'y a aucun handicap, ça ce sont que des mots. On va au-delà, et c'est surtout, c'est notre richesse. Nos maladies, nos peines, nos douleurs, c'est une richesse, c'est ma niaque de vivre à moi. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, un ami qui m'a dit, Gwen, sers-toi de ton Asperger comme ton pouvoir personnel. Et c'est ce que je fais. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas dur, ça ne veut pas dire que j'ai pas des peines. J'ai eu un accident assez grave dans la rue, je suis tombée en faisant des vidéos de danse il y a 15 jours. Mais je vous dis, j'ai une niaque de vivre, je sais ce que j'ai à faire, et surtout, je suis très joyeuse. C'est ça la résilience. On est l'enfant intérieur, l'enfant extérieur est là, dans l'art d'ailleurs également, et je suis une femme heureuse, joyeuse. Et j'ai fait des choix, par exemple, d'être asexuée à ce jour, ça ne veut pas dire que j'aime. C'est, j'ai fait le choix de me protéger, c'est-à-dire la sexualité, si je l'ai avec quelqu'un, ça serait quelqu'un de vertueux, d'honorable. C'est tellement beau, mais j'ai fait le choix de me protéger. Donc ça fait 4 ans que je suis asexuée, mais c'est pas... c'est quelque chose de vertueux, c'est une protection.
Vous choisissez, on parlait de conscience à l'instant avec Nadia,
et oui, effectivement, c'est pareil.
Hein, voilà, c'est, vous êtes en conscience dans votre choix de ne pas vivre
alors,
de relations sexuelles.
Hein. Je suis quelqu'un d'extra lucide, je suis quelqu'un, je le dis, d'extra lucide à ce jour, c'est quand même, tout ce que je fais est conscient. Il n'y a pas un mot que je vous dis ou un acte, tout est réfléchi en conscience, pour moi, donc pour les autres. Parce que quand on fait les choses pour soi, on le fait pour les autres, par amour des autres, par respect. Moi, je parle de force, d'honneur, de respect, de valeur. Et j'incite à la réunion plutôt qu'à au séparatisme, à l'obscurantisme. Et c'est pas facile de
et
le
d'ailleurs,
faire.
D'ailleurs, réunion,
vous savez, hein.
On peut le lire en deux mots. On se réunion, oui. Hein, comme une
j'aime
union.
Beaucoup.
Voilà,
j'aime,
c'est ça.
J'aime beaucoup aussi lire les mots. En fait, j'ai la capacité de lire entre les lignes, de lire au-delà. C'est pour ça qu'on parle d'enfant intérieur et d'enfant extérieur. J'ai une capacité hors norme de voir ce que les autres ne voient pas, de ressentir et de comprendre. Et c'est ma force aussi à moi. C'est une intelligence. Par contre, je reste humble. Mais c'est bien, à un moment donné, de reconnaître qui nous sommes. On est assez dans un monde où il est mal de dire qui on est. C'est juste... juste être à sa place, tout simplement, et après, t'es libre dans ta tête, dans ton corps, ce que tu te connais. Moi, je me connais par cœur, je le dis, par cœur. Parce que chaque chose que je vis, chaque situation, je me pose les questions. Pourquoi tu le vis? Pourquoi tu bloques? D'où ça vient? Et parfois, ça vient pas de soi, mais comme elle disait la petite femme tout à l'heure, comprendre que chaque souffrance, chaque douleur a un sens, une origine. Et moi, je vais à l'origine de tout. Et c'est ça qui est formidable. Mais...
Gwenaëlla, vous êtes art thérapeute ou vous faites quoi en thérapie
aussi, entre autres, je suis art thérapeute maintenant, mais je précise autodidacte. Parce que moi, je suis une autodidacte, je suis incapable d'apprendre avec quelqu'un, parce que quelque part, je suis sortie du cadre. Je me suis décadrée, je me suis complètement désaxée, maintenant pour rentrer dans le cadre, mais je me suis sortie du cadre. Il y a mon fils qui m'a envoyé un message il y a 15 jours, il me dit « Bravo maman, bravo, t'es sortie du cadre, t'es totalement atypique, parce que je suis une femme atypique. Dieu sait que je vis des souffrances, hein, de lynchage, d'humiliation, encore à ce jour, c'est pas grave. Je sais qui je suis, ce que j'ai à faire. »
Pardonnez-moi de vous poser cette question, Gwenaëlla, mais pourquoi à ce jour encore ces abus?
Comment?
Pourquoi à ce jour encore ces abus, ce lynchage, comme vous le dites?
Parce
pourquoi
que
encore
les gens,
à ce jour
les gens, y en a, les gens n'ont pas. Les gens, dès que vous avez. Moi, je m'habille d'une façon très atypique. En fait, ma vie et ma façon de parler, hein, telle que brute de pomme, que je vous dis avec le cœur, toujours respectueux, il y a des gens que ça dérange. Surtout, moi, j'ai parlé d'amour, j'ai parlé de choses, j'ai dénoncé mes vérités. Parce que quand même, il faut avoir un courage en homme, même toute petite fille, hein, de parler avec ses deux oncles de ce qui se passe dans la famille, des maltraitances, des soumissions, Ben non, quelque part, on m'a fait, faut quand même le dire, interné à plusieurs reprises pour me faire taire, mais il faut quand même le dire. On m'a fait passer pour schizophrène pendant une grande partie de ma vie. On m'a fait prendre des traitements jusqu'au jour où il y a un psychiatre qui m'a dit, mais madame, on va vous déconditionner. On va vous délaver le cerveau. On vous a lavé le cerveau. Et je vous jure, moi, j'ai été hospitalisée pendant 4 ans, on m'a délavé le cerveau, je ne sais pas si des gens ont déjà entendu parler de ça, délavé le cerveau d'une jeune femme à qui on a fait croire qu'on était ici, pour me faire taire.
Gwenaëlla, pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que toute la famille était complice dans cette histoire?
Oui, et donc toute la famille le savait, mais c'est très dur. Vous savez, pour les frères et sœurs, c'est très dur, mais bon, moi, personne ne m'a écouté, personne ne m'a respecté. Mon fils a supporté autant que moi. Au final, ça a été très, très violent, très dur à vivre. Mais c'est horrible ce qu'on a vécu. Mais je vais vous dire, ça m'a donné une force énorme. Quand vous dénoncez, les gens ont peur. Les gens ont peur. Ça fait peur. Ça fait très peur. Et en même temps, ils sont perdus. J'ai compris ça. C'est tellement violent dans leur tête. Je leur en ai voulu à une époque. Mais c'est pas possible. Votre sœur vous dit, votre fille vous dit, vous faites rien. Je me suis sentie abandonnée. Mais j'ai compris, c'est la peur. Ça fait tellement peur. Et quand la justice vous rit au nez, parce que c'est ce qui s'est passé, la justice, moi, on m'a fait perdre la garde de mon fils. C'est horrible. C'est horrible pour me faire taire. Mais c'est comme ça. Mais c'est ma force. Et je ne veux plus me plaindre du passé, je veux juste avancer. Mais je le raconte parce qu'il y a tellement de gens qui vivent des horreurs, et c'est notre force.
Et vous faites bien, et je vous remercie de choisir Europe 1 pour cela, parce qu'il faut toujours dénoncer. Il faut toujours dénoncer.
Je suis d'accord.
Et Nadia, par exemple, dans son désir d'enfant, elle a plutôt obéi à sa peur et on fait ce qu'on peut, donc il n'est pas question de juger, bien sûr.
Non, mais pas en ce du qui tout, concerne, au contraire.
Voilà. Mais en ce qui concerne les violences intrafamiliales, encore plus les incestes, évidemment, ou les viols, il faut dénoncer, il faut mettre le cadre juridique.
Bien sûr.
Voilà, c'est important
bien
de
sûr.
Dire.
Bien
ce que vous
sûr,
avez fait.
Moi,
vous avez dit à quel âge? Vous avez commencé à formuler et à verbaliser à quel âge?
Moi, j'ai commencé très tôt, mais vous savez, quand on vous fait passer pour schizophrène et tout, ben, votre cerveau, et puis il y a une légitimité vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa famille, on a peur. Voilà, parce que les agresseurs vous disent quand même qu'on va, ben, il faut quand même être très clair, on va te tuer si tu parles, de toute façon, tu ne seras pas entendu. Vous savez très bien comment ça
bien
se passe.
Bien sûr qu'ils font du chantage.
Les pédocriminels
évidemment.
Sont des monstres, il faut le dire. C'est des personnes, c'est des. Puis au-delà de la psychopathie, c'est l'horreur de l'horreur. Donc quand tu es une petite fille et que c'est plusieurs, c'est pas une personne, ben on a peur, on va détruire la famille. Mais moi j'ai quand même parlé, mais comme j'étais pas écoutée et qu'on m'a fait soigner pour schizophrénie, ben j'ai été perdue. Mais j'avais quand même des éclairs de génie, même avec mon ex-mari. Hein. J'ai dénoncé, j'ai parlé parce que j'ai vécu des horreurs. On va critiquer les gens du Maghreb et autres, c'est horrible. En France, il y a des Français, je suis désolée, mais il faut le dire, qui sont comme ceux-là, qui font vraiment des horreurs. Mais c'est aussi, il y a aussi des hommes qui vivent ça. Et c'est très peu dit, des viols, des enfants, des petits garçons, des hommes qui sont violés, qui viennent se confier bien à sûr. Moi, qui m'appellent à l'aide parce que je suis tellement pâte et je comprends tellement, des hommes aussi bien, des adultes que des adolescents, des jeunes hommes, qui sont violés, qui sont torturés par leurs compagnes. C'est la réalité. C'est la réalité.
Et aucun instituteur, aucune institutrice, non. Le médecin non. de famille, personne ne vous a entendu.
Non, j'étais autiste Asperger, on me faisait passer pour schizophrène, parce qu'à l'époque, je suis née en 73, c'était pas connu. C'est toujours qualification, soit bipolaire, soit schizophrénie. Et puis en même temps, vous savez très bien qu'à cette époque-là, dans les années 80, même à la télé, hein, il était courant, même des types de la télé, des acteurs, des chanteurs, des producteurs qui racontaient leurs frasques, hein, voilà, avec les gamines, Polanski et autres. Et c'était naturel. À mon époque, c'était naturel. C'était quelque chose presque de rentrer dans les mœurs. Gainsbourg, je suis désolée avec Charlotte Gainsbourg, mais tout le monde le sait. Mais c'était naturel. Mais bon, moi, je suis désolée. Maintenant, je le dis, comme des petites femmes, comme des actrices maintenant qui dénoncent qu'elles ont vécu, et c'est la réalité. Mais c'est dur parce qu'on est prise soit pour des menteuses. C'est toujours, on doit toujours prouver. Au final, on n'a rien à prouver. Quand quelqu'un dit qu'il a été violé, je suis désolée, mais on a juste à l'écouter, lui tendre la main. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Donc, Gwenaëlla, à quel moment vous déposez plainte? À quel moment?
Alors moi,
à 18 ans?
Il y avait prescription, je vous le dis sincèrement, c'est ça qui est horrible. Ça devrait même pas exister, c'est une honte en France. J'ai vers 25 ans, j'ai commencé à en parler. Non, 35 ans, exactement. 35 ans, quand j'ai eu les premiers flashbacks, les premières réminiscences qui étaient récurrentes. J'ai commencé à en parler dans ma famille, on me faisait passer vraiment pour une menteuse. Déjà, j'ai été évincée complètement, mais j'ai quand même été au commissariat. On m'a dit, après, à l'époque, je crois qu'il y avait 20 ans de prescription, je crois. Maintenant, c'est 30, je crois. Mais à l'époque,
ah oui, donc vous avez fait une amnésie. Vous avez fait une amnésie.
Moi, j'ai fait une amnésie traumatique très longue, assez longue, on va dire. Et puis, parce que vous imaginez être violée par trois personnes de votre famille très proche. Trois. C'était horrible, moi, ce que j'ai vécu, horrible.
Et jusqu'à 18 ans, vous nous avez dit, surtout. Donc,
à peu près, oui. Voilà. Et bébé, même. Hein. Vous entendez bien, bébé, ce que ça peut faire à une petite fille ou un enfant. Hein. Moi, ça a été une horreur. Une horreur. Mais voyez, maintenant, je suis une femme. C'est énorme. Je suis fière de moi. Je suis fière de vous parler. Oui. Je suis fière de ce que je fais. Et je dois le dire, soyez fiers, et vous, messieurs, mesdames, là, et les enfants, les jeunes, les adolescents, soyez fiers, parce que ce que vous vivez, vous êtes encore en vie, vous avez la niaque encore, la résistance d'exister. Parce que la première fois qu'on est touché, on est mort dans sa tête. C'est une sensation de mort. On est mort, donc logiquement, c'est logique qu'on appelle ça en dissociation de soi, et surtout, on a le cerveau d'un côté, et chaque morceau, on est éparpillé en mille morceaux. Moi, j'ai réussi, vous savez, comme ça, Valérie, à rassembler par tendresse et amour chaque morceau, année après année, seconde après seconde, et surtout, je me suis donné de la douceur. Je suis quelqu'un, j'ai appris à m'aimer, à être douce, à être tendre, et à me privilégier. Voilà.
Comment avez-vous fait, Gwenaëlla, pour pardonner?
J'ai pardonné, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai compris le pouvoir du pardon. Moi, je ne suis pas du tout dans la spiritualité ni la religion. Je suis quelqu'un de très savante, on va dire, plutôt dans la science, dans la médecine. Mais j'ai compris une chose, que si je me pardonne, je vais être libre. Si je me pardonne, je vais être libre. Je veux vivre en paix. Et la seule façon de vivre en paix, c'est de m'être pardonné, donc de pardonner. Ça vient de pair. Et moi, je veux que les gens autour de moi soient heureux et que quelque part, voilà, c'est le pouvoir énorme du pardon de soi, je précise. Voilà, de soi. Moi, je me suis pardonnée parce qu'on est aussi des êtres.
Est-ce que ces prédateurs, vous les avez, ces bourreaux, vous les avez pardonnés aussi?
Alors oui, j'ai mis un chemin parce qu'ils sont décédés principalement. Les deux sont décédés, voilà, principalement. Il y en a qui sont encore là. Mais
les deux frères de votre mère.
J'ai encore supporté quelque chose de dramatique. Il y a 2 ans, j'ai été violée par quelqu'un que j'ai aidé, torturée. J'ai été laissée presque pour morte, hein, et j'ai pardonné. Parce que cette personne s'est suicidée suite à m'avoir fait du mal. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est des choses très dures. Moi, j'ai vécu, mais c'est ma force, c'est comme ça. Mais je me suis pardonnée parce qu'on fait des erreurs aussi. Hein. C'est la vie, c'est la pédagogie, les leçons de vie à tirer. J'en ai fait des erreurs. Et je me pardonne déjà mes conneries à moi, mes erreurs. C'est l'humilité de la vie. Baisser chapeau bas quand même de ce que j'ai fait. Et c'est vrai que quelque part, j'ai pardonné. Vous avez compris, Valérie, je veux être libre. Donc libre, c'est le pardon de soi à soi.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vous posais cette question. Et est-ce que vous vous avez revu, par exemple, vos parents? Comment ça s'est passé? Allez-y, je vous laisse.
Pardon, je suis de nouveau. D'ailleurs, je suis chez ma maman ce soir. Il y a mon fils, il y a ma belle-fille. J'ai revu ma sœur dernièrement, il y a 2 jours, là, 2-3 jours. J'ai des contacts de nouveau parce que, quelque part, je ne sais pas si vous croyez au rayonnement, à la vibration, mais quand vous rayonnez, vous attirez, vous êtes un aimant qui attire. Donc les gens reviennent vers vous de manière vertueuse. C'est-à-dire quand tu es vertueux avec toi-même, tu n'as que du vertueux dans ta vie. Et ce qui essaye d'être non vertueux, tu le laisses même pas rentrer et ça vient essayer de te toucher, mais au final, ça ne t'impacte pas. On va dire c'est que ça rebondit. Vous voyez, l'effet rebondit. C'est tout. C'est comme si tu es imperméable, en fait. Mais moi, j'ai des relations vraiment d'amour là, je le dis. C'est devenu harmonieux. Avant, c'était totalement dysfonctionnel. Maintenant, il y a de l'harmonie. C'est quand même unique, ça. C'est beau l'harmonie. Hein.
Quel travail vous avez fait, hein, Gwenaëlla. Oui, voilà. Hein. C'est vraiment Nadia, et je comprends mieux vos mots ce soir au 739-21, oui, voilà. Parce que c'est vraiment, vous êtes toutes deux des parcours exemplaires de résilience.
Oui. Ouais. Moi, je crois à l'amour, hein, je vous le dis franchement, depuis que je suis toute petite, je sais que j'ai mon âme sœur. Au-delà de l'âme sœur, je sais que j'ai un double. Je sais que moi, j'ai mon double, et ça m'anime. Mais j'ai fait le choix d'abord de me privilégier pour faire la rencontre de mon double, quand ça sera mon moment, apaisé, calme, sereine, comme c'est maintenant, et donc d'être asexuée. Et ça, il faut le dire, c'est pas du tout quelque chose, au contraire, c'est vertueux. C'est vertueux, c'est je me protège, je me guéris, parce que quand on a subi des viols, des incestes, on souffre dans son corps, dans son être, et on ne peut pas. Donc ça sert à rien. En même temps, on attire des gens qui nous respectent pas. Moi, le but, ça doit être... La sexualité, c'est quelque chose d'honorable et ça doit être fait de manière vertueuse et respectueuse.
Et parfois, au risque de choquer certains, de sacrer,
oui,
d'ailleurs.
Oui, en pause. La pause. Mais la pause est nécessaire dans la vie. Comme je dis toujours aux gens, mets-toi en pause. Tu poses, là. Tu déposes ce que tu as déposé de ton être, puis tu te poses, tu arrêtes, tu lâches. Parce que la seule manière d'être... Moi, je me lève le matin, ou même dans la journée ou le soir, je me dis, j'accueille les nouvelles rencontres, j'accueille les jolies situations, et peu importe si c'est plus compliqué, ça fait partie de la vie est une aventure. Moi, vous voyez une Indiana Jones, moi je me mets dans des références comme ça,
oui. Ben,
un aventurier, il vit aussi bien des choses compliquées, mais il vit des choses magnifiques. Et la vie, au final, elle est très belle, mais aussi il y a des choses plus compliquées. Voilà, c'est comme ça.
Dites-nous, Gwenaëlla, comment vous aidez les gens avec en étant artiste de rue? Alors, thérapeute, j'ai bien compris. On voit bien, que vous maniez les mots comme une thérapeute, en fait, parce qu'il y a un langage thérapeutique, hein, on le sait. Voilà. Donc, j'entends complètement votre côté, et c'est ça qui vous a sauvé, c'est cette intelligence hors norme aussi, hein, de l'autisme Asperger. On l'entend aussi dans vos propos et en sous-titres, évidemment. Alors, l'art. On connaît l'art-thérapie, bien sûr.
Oui.
Comment vous aidez les gens dans la rue? Dites-moi.
Alors, moi, je suis totalement unique. Et d'ailleurs, comme tout à chacun, c'est ça qui est merveilleux. Au final, il n'y a aucune différence. Il y a juste des êtres qui sont complémentaires. On a tous notre place. Donc, moi, je me mets en bas de chez moi. J'habite dans des rues piétonnes. Il y a des maisons de ville très anciennes à Saintes, hein, parce que c'est une ville empruntée d'histoire. Donc, devant mon immeuble qui date de 1700, petite maison de ville de 3 étages, je me mets en bas de chez moi, déjà je crée dans la rue. Quand il fait beau temps, artiste, peintre, créatrice, voilà, avec des objets, beaucoup de récup. Moi, parce que, en fait, je le dis, à ce jour, je mange pas ma faim, je le dis, j'ai ni eau chaude, ni très peu d'électricité, et également, comment dirais-je, pas de chauffage, mais c'est mon four. En fait, c'est quelque part, je vais vous dire une chose, j'ai dû me soigner. Donc, c'est comme ça, c'est ainsi, mais ça me donne encore une force. Et donc, je me mets dans la rue, devant, à créer pour apporter de la joie, de la couleur, de l'art, également de la bienveillance, du respect, du solaire. Je crée ma façon de m'habiller aussi, mon maquillage très atypique.
Oui, en fait, vous utilisez votre corps et votre image comme un support,
comme un
artistique.
Tableau.
Voilà, c'est ça.
D'accord, vous avez compris, c'est ma force à moi. Parce que j'ai ce courage et cette force en homme. Déjà, j'ai pas peur. J'ai plus peur. J'ai pratiquement plus de peur. Je me suis guérie de mes peurs. Donc, je le fais, mais surtout en conscience d'apporter. Quand je vois les gens qui marchent dans la rue, la tête baissée, les femmes, les enfants, il y a beaucoup de gens qui sourient plus. Mais un jour, je me suis dit, écoute, Gwenaëlle, tu vas t'habiller. Tu vas être en couleur. Peu importe le temps, t'es en couleur. Tu mets des affaires très voyantes. Très voyantes de manière à apporter du soleil. Et je me baladais, peu importe le temps, que j'aille bien ou pas, je me baladais en souriant, avec toujours un mot bienveillant. Et après, c'était en bas de chez moi à créer. Maintenant, je suis danseuse, j'aimerais danser et compter, faire des petites scénettes, en fait, parce que les gens ont besoin d'art.
Toujours dans la rue.
Exactement, moi, c'est la rue, je me qualifie de troubadour. J'aime beaucoup le Moyen-Âge, la période médiévale. Moi, j'ai un rapport direct avec ça. Et effectivement, j'aime ce concept d'art de rue. On est des êtres du peuple de la rue, tous et toutes. Donc, j'aime tellement l'humain. Moi, j'aime pas les réseaux sociaux.
Et surtout, ce que j'entends aussi, Gwenaëlla, c'est que c'est de l'art vivant, hein. Donc,
vivante,
résolument
voilà.
Vivante. Voilà, c'est ça. Hein. Vous incarnez un hymne à la vie, en fait. Hein. C'est un peu ça.
Merci, exactement. Mais c'est beau ce que vous me dites, Valérie. Il y a une résonance, vous me comprenez, vous lisez en moi, vous traduisez. Je me sens tellement vie. Je suis tellement vie que je suis en vie. Et j'aime le contact. En tant qu'autiste, c'est énorme. J'aime maintenant le contact humain. Et c'est surtout, j'ai appris à parler. J'ai appris à me faire connaître. Parce qu'en tant qu'autiste, on a une neuroplastie, une neuropsychologie qui est totalement atypique. Personne ne me comprenait. On m'a traité encore, il y a encore quelques jours, de folle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais ce que j'ai à faire. Et surtout, les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est clair? Comment tu parles maintenant? C'est énorme. J'ai appris la communication en étant dans la rue, en observant les gens et face à moi, je me mets à la place des gens. J'ai cette capacité de me mettre à la place des gens, que ce soit un enfant, un animal, un vieillard, je me mets à sa place, comme si je le comprenais au final.
Oui. Mais ça, c'est aussi votre autisme Asperger, avec l'hypersensibilité, oui, voilà. Hein, et l'empathie plus aussi, d'une
voilà.
certaine
Alors,
manière.
Alors, c'est le danger, hein. C'est le danger de l'empathie plus, parce que d'où qu'on sait pas dire non, d'où qu'on a peur de dire non, d'où qu'on croit que c'est mal de dire non, d'où que c'est un monde de bisounours. Et quelque part, oui, les prédateurs, c'est la fête à neuneux. Excusez-moi, j'aime pas parler comme ça, mais les prédateurs, ce sont vraiment des prédateurs. C'est grave. Ce sont des monstres. Et ben, il se dit, cette petite fille-là, et ben, qui croit que c'est, qui est dans un petit monde un peu de bisounours, ben, elle est facile. Elle est facile à cueillir ou à maltraiter ou à violer. Et c'est la vérité. Par contre, moi, j'ai appris à m'affirmer, à dire non, à me faire respecter. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi dans la rue. Il a fallu que j'aille voir personne après personne pour demander le respect que je mérite et qu'on mérite tous et toutes. On n'a plus accepté ça.
Vous avez osé aussi, c'est ça que j'entends, Gwenaëlla. Vous avez osé, ça aussi c'est une clé, hein. Oser, oser se positionner, oser dire.
Oui. Si on ne fait pas, on ne sait pas. Donc agir, action, choisir aussi en conscience, de vivre. Et je me dis, bah, si au moins je n'essaye pas, je ne sais pas si je sais faire. Si je n'expérimente pas, et surtout, comment dirais-je, je fais le choix d'oser, mais surtout d'agir. À ma manière. Chacun fait comme il peut à sa manière. Moi, je fais comme ça. J'ai aussi des souffrances à l'ultra, parce que c'est du trash, on le dit. Mais quelque part, ça m'a donné une force telle que maintenant... J'ai une confiance énorme.
Et ce qui est magnifique dans Gwenaëlla, ce qui est magnifique dans votre témoignage, c'est que vous rajoutez aussi de la poésie.
Merci.
Et ça, c'est pas rien. Bon, vous savez que moi, j'aime les mots. J'ouvre toujours les émissions La Libre Antenne avec des citations. Et souvent, les auditrices et les auditeurs lisent des poèmes dans La Libre Antenne. Et je vous incite d'ailleurs à nous en envoyer, hein, si vous le souhaitez, évidemment,
moi,
pour ceux qui nous écoutent. Voilà.
Moi, j'écris moi-même.
Voilà, et on sous-estime la force de la poésie, de la fantaisie.
Oui, je suis une femme très fantaisiste, très fantasque, et puis je suis très romantique, mais surtout, des fois les gens me disent que c'est un poème à toi-même. Voilà, c'est comme ça.
Attendez, je ne vous ai pas entendu, vous êtes éloignée du téléphone. Allez-y.
Pardon, les gens me disent que je suis un poème à moi-même, que je suis une poésie, c'est pour ça que j'écris des contes, que j'écris beaucoup de poèmes d'amour, que je passe des heures et des heures à être... Finalement, je me considère, oui, comme une poète, au-delà d'être une artiste. La vie est une poésie pour moi. Voilà, c'est comme ça que je vois la vie maintenant.
Et oui, c'est ce que j'entends dans vos propos. Moi, ce que je vous propose, Gwenaëlla, c'est que, d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné ce soir de votre histoire, de nous montrer ce chemin de l'espoir, comme quoi c'est toujours possible, il ne faut pas le perdre de vue. C'est aussi le message qui a été donné hier à Hélène par Patricia et par toutes les personnes qui communiquent encore ce soir leur numéro de téléphone, et il y a encore Frédéric qui vient de le faire pour Hélène. Donc c'est vraiment ce chemin de l'espoir, y croire, continuer d'y croire, savoir que nous ne sommes pas seuls, donc vraiment un grand merci. Et moi, ce que je vous propose avant qu'on se sépare, parce que c'est la fin de cette émission, c'est de nous rappeler quand vous voulez pour nous lire un de vos poèmes.
D'accord, moi je vais vous écrire des choses et je voudrais remercier Raphaël, je voudrais remercier plein de personnes qui font partie de ma vie, mon fils, ma famille, mes frères et sœurs, ma maman, mon papa, qui ont fait ce qu'ils ont pu, parce que la vie est très dure. Et en même temps, je remercie la vie, parce que je suis en vie et je compte vivre de la manière la plus vertueuse, la plus honorable, parce que merci. Je ne sais pas si je serai là dans 5 minutes, mais je veux vivre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwenaëlla. Je suis obligée de vous laisser. C'est la fin de l'émission. À très
plein
vite sur l'antenne avec
d'amour.
Vos poèmes.
Merci beaucoup. Plein
merci.
D'amour. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Tous les témoignages de la Libre Antenne sur le site europe1.fr et l'application Europe 1. Et si vous aussi vous souhaitez vous confier, parler un petit peu de votre vie, de vos problématiques, on vous attend à partir de ce soir 22h. La Libre Antenne sera en direct et vous pourrez échanger avec Olivier Delacroix. À suivre, Sophie et les copains avec Sophie Davant et sa bande. Et pour la musique, Aerosmith. Le groupe a récemment annoncé la reprise de sa tournée d'adieu. C'est vrai que Steven Tyler a eu des petits problèmes de voix, de cordes vocales. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et on écoute le morceau qui a lancé Aerosmith il y a 51 ans, Dream On. Dream On, Aerosmith sur Europe 1. On vous souhaite de beaux rêves si vous allez vous coucher. Bienvenue peut-être aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent. Nous sommes le mercredi 1er mai et il y a 30 ans, le pilote de F1, la légende Ayrton Senna, disparaissait lors du Grand Prix de Saint-Martin. Stéphane Bern retracera son histoire aujourd'hui, mercredi 1er mai de 15h à 16h sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre. Soyez au rendez-vous hein, si vous êtes fan du légendaire pilote automobile. On vous souhaite une excellente fin de nuit avec nous. Place maintenant au grand jeu d'Europe 1. On retrouve Sophie Davant et sa bande de copains.
Europe 1, Sophie et les copains.
Sophie Davant.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sophie et les copains. C'est reparti avec les copains, il ne manque plus que vous à gagner un jackpot de 1000 euros. Et puis en plus cette semaine, nous vous faisons également gagner un séjour de rêve de 8 jours en Slovénie, hôtel et vol compris, destination idyllique avec une mosaïque de forêts, de rivières, de lacs, de villages typiques. Vous pourrez choisir votre formule, circuit organisé, séjour en hôtel 4 étoiles ou bien auto-tour avec location de voiture, un voyage que nous vous offrons avec Top of Travel, le tour opérateur leader en France de voyages organisés depuis 25 ans et qui propose des départs depuis 22 aéroports de province. Nous allons accueillir notre première candidate dans quelques instants, mais d'abord je vous présente les copains qui vont jouer avec vous. Notre grand champion de l'air rigolade, notre petit génie de la vanne, c'est Jean-Luc Lemoine. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Elle a pour mission secrète de tous nous faire devenir centenaires. C'est la journaliste santé Mélanie Gomez. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Et c'est un pilier de la station. Il vous balade en France le dimanche, mais aujourd'hui il nous a promis qu'il irait droit au but. C'est William Lémergie. Bonjour.
J'ai une tête de pilier.
Il est beau, pilier.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, enfin un peu enrhumé. J'espère que chez vous ça va. Mais...
Ça ne s'entend pas
non.
du tout.
Non, pas alors, du vraiment, tout. Hein. Jean-Luc, une petite info du jour peut-être.
Oui, est-ce que vous aimez les diamants, Sophie?
Oui, des petits diamants, pas trop imposants.
J'ai exactement ce qu'il vous faut. Et ça se trouve sur le site de la célèbre marque Cartier. Et c'est un Mexicain qui a fait cette jolie découverte. Il a découvert des jolies boucles d'oreilles en or et avec des diamants pour la somme de 237 pesos. Soit 13 euros la paire. Et autant vous dire qu'il en a acheté deux tout de suite. En fait, c'est évidemment un bug informatique, sauf qu'il a réussi à acheter et ça n'a jamais bloqué.
Non.
Quand la marque s'en est aperçue, elle s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont prétexté une rupture de stock. Ça n'a pas marché. Ils ont dit, non, mais on va vous rembourser. On vous rembourse les 237 pesos. Très, très généreux. On vous donne en plus une bouteille de champagne et puis un petit essuie à passeport. Il a refusé. C'est parti devant des défenseurs de consommateurs. Et pour l'instant, il a gain de cause.
Oui.
Il va avoir ses boucles d'oreilles à 13 euros. 13 euros la paire.
Et alors, on connaît la véritable valeur ?
Oui, la véritable valeur, c'est 13 000.
Ah ouais.
13 000 la paire, c'était 237 000 pesos. Ils se sont trompés de 3 zéros.
Pesos, il pourrait être.
Pesos.
Excusez-moi.
Pesos.
Qu'est-ce qu'elle a, Mélodie Gomez ? Vous y connaissez un petit peu ?
Non, elle s'appelle Gomez.
Gomez.
Gomez. Et il va les porter à ce prix-là.
Normalement, et on les offre.
Non, mais ils auraient pu faire un geste. Je sais pas, ça aurait fait une bonne pub pour la maison. Oui, on s'est trompé. Être bon joueur, quoi.
Oh, des cadeaux à 13 000 euros, il y en a peu.
Oui, pour la maison Cartier.
Vous connaissez ça?
Non, très peu. Moi, je trouve
une menteuse.
Mélanie.
Alors, moi, pour bien démarrer la semaine, je suis venue avec ma blouse et ma piqûre aujourd'hui. Oui, je voulais vous parler de deux nouveautés.
Sexy.
Oui, c'est un petit clin d'œil.
Sexy.
Voilà,
non
pour démarrer.
Ça dépend.
Oui, alors après, c'est moins sexy ce que je vais vous raconter. Je voulais vous parler de deux nouveautés du calendrier vaccinal, il a été publié récemment. Alors d'abord, en ce qui concerne les bébés de moins de 1 an, jusqu'à présent, en fait, on les vaccinait contre les méningites, contre une méningite, celle à méningocoque C. Et là, à partir de 2025, donc de janvier 2025, il y a une nouveauté, on va les vacciner contre 5 souches, 5 familles de bactéries qui causent des méningites. Alors il y aura le W, le Y, enfin, et j'en passe, et ce seront 5 souches désormais, et c'est obligatoire, puisque ce sont les vaccinations obligatoires des enfants de moins de 1 an. Alors pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, le nombre d'infections à méningocoque est en explosion. En 2023, il y a eu 70% de cas en plus. Alors, on parle de chiffres relativement petits. Il s'agit de 500, 600 cas par an. Néanmoins, 70% d'augmentation.
On sait à quoi c'est dû?
Ces bactéries, justement, c'est pour ça qu'on met, on fait des vaccins avec les bactéries en cause.
Oui, non, mais
cause.
On sait pourquoi ça augmente.
Oui, probablement parce qu'il y a eu, vous savez, on a mis un peu les enfants sous cloche avec le Covid. Mmh. Donc, ça ne concerne pas que d'ailleurs les méningites. Beaucoup d'infections sont en augmentation après la période Covid parce que les enfants étaient surprotégés, mis sous cloche pendant quelques temps à cause de la pandémie. Et l'autre nouveauté, elle concernera pour le coup l'autre extrémité de la vie, les plus de 65 ans. Il va y avoir un nouveau vaccin contre le zona. C'est recommandé à partir de 65 ans. Il sera disponible, pareil, très prochainement. En une seule dose.
Puis il y a la coqueluche et puis ça n'arrête pas.
Il y en a beaucoup, il faut se protéger, oui.
William.
Vous nous faites tellement de bien, Mélanie.
Oui. Oui, une petite actu.
Oui, je voudrais vous parler d'un homme remarquable
il va parler
qui s'appelle David Fourdrin. Oui. Moi, après, je vous parlerai d'un autre. Et vous ne connaissez pas David ?
Non. Non.
C'est un homme exceptionnel et on n'a pas assez parlé de lui depuis dimanche où il a battu un record. À mon avis, un record de France, mais peut-être un record du monde. Et pourquoi, à 20h, on ne parle pas de David ?
Il fait quoi, David ?
Eh bien, voilà. Dimanche, ce garçon a battu un record qui est assez difficile à battre. Ça s'est passé à Vrely. Vous ne connaissez pas Vrely ?
Non, plus.
Non, mais décidément.
Mais
à qui je parle, là, franchement. Ouais, franchement, ouais. Alors, à Vrely, c'est dans la Somme et il a gagné le concours de la patate d'or. Ça vous épate pas, vous?
Ah, si, non, moi, j'aime beaucoup la
patate d'or. Pourquoi il a fait ça? Ben, il a épluché 5 kilos de patates. Et on ne compte pas les épluchures quand c'est fait. Vous voyez, on compte la patate belle, la patate pelée. Et ça, en 10 minutes. Essayez d'en faire autant.
5 impossible. Kilos, pas mal.
5 kilos. Ouais. Bon. Et j'aimerais, c'est pour ça que j'aimerais qu'on rende hommage à ce héros de la France du patrimoine pour lequel voilà, j'ai beaucoup de respect.
Et alors, c'est où l'endroit
Vrely,
où il
habite ? C'est dans la Somme.
D'accord, bon, dans la Somme.
Il a perdu 3 doigts, mais en tout cas, bravo à lui.
Mais ça va, il fait bonjour quand même.
Les patates sont bien épluchées.
Et il ne les a pas épluchées avec un truc automatique, il les a épluchées à la main.
Ah, pourquoi encore ?
Non, mais on épluchait.
Est-ce qu'on sait si elle servait à faire des frites après ?
Oui, bien sûr.
C'est absolument. Important la finalité.
Absolument. Nous sommes un peu dans le nord et hop, tout ça s'est passé à la friteuse. Ah,
on aime les frites.
Comment va Marie-Claire ? Bonjour Marie-Claire.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Marie-Claire.
Bonjour Marie-Claire.
Très jeune retraitée, vous faisiez quoi avant de prendre votre retraite ?
J'étais aide-comptable dans un groupe de quincaillerie.
Alors vous avez émigré vers le sud pour la retraite, parce que j'ai l'impression que vous ne travailliez pas à Aix-en-Provence.
Un petit peu avant la retraite. Mm-hmm. Et puis après, là, je profite pleinement de la retraite.
Vos petits-enfants sont à proximité ?
Non, malheureusement, eux sont restés plutôt dans le nord-ouest. Ils sont du côté de Nantes et du côté d'Angers.
Vous voulez leur faire un petit coucou ? Ils s'appellent comment ?
Ils s'appellent Tiani, Tom et Arthur.
Je lis sur votre fiche, Marie-Claire, que dans notre émission, les copains sont toujours finement choisis. Que c'est joliment
dit. Sauf aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai donc Jean-Luc Lemoine, William Lémergy, Mélanie Gomez, vous confirmez le finement choisi ?
Finement choisi, ils sont tous experts dans leur domaine, c'est parfait, je suis contente.
Très bien,
merci.
Il faudra juste que vous me précisiez mon domaine, s'il vous plaît.
La rigolade, c'est la rigolade.
C'est un peu général.
C'est un marin, c'est le moine.
Bonjour Jean-Luc, je trouve.
Qu'est-ce que vous disiez, Marie-Claire, sur Jean-Luc ?
J'ai dit c'est très général, la connaissance de Jean-Luc. Voilà, ça peut toucher à beaucoup de domaines. Donc,
à tout et à rien.
Je suis confiante.
Grande culture générale.
Je vais essayer d'être à la hauteur. Alors,
et le domaine de William, justement, puisqu'il se moque.
Eh bien, il est nul et il est très fort.
C'est le roi de la patate.
Je dirais l'audiovisuel, les choses comme ça, je pense qu'il est suffisamment dans le métier depuis longtemps.
L'audiovisuel, ça veut dire quelque chose ?
Excusez-moi, vous avez dit l'audiovisuel ou le dieu visuel ?
Les deux.
Ah, les deux.
Et Mélanie ?
La santé.
Oui, entre autres. La santé,
la société,
le bien-être, ça, ouais. La société.
Voilà. Oui, les bonnes nouvelles.
Une bonne vivante. Allez, on va commencer justement tiens, avec une question santé. Et on va parler de migraines pour débuter cette semaine, ça commence bien. Ces maux de tête chroniques qui touchent 15% de la population mondiale et qui peuvent gâcher la vie, surtout quand elles ne sont pas traitées. Le mot migraine vient du grec hémicrania, qui signifie moitié du crâne. Voici ma question, Marie-Claire. quel célèbre auteur français est l'auteur de la citation suivante ? La migraine est la reine des maladies, l'arme la plus puissante et la plus plaisante employée par les femmes. Alors, ce n'est pas Sacha Guitry, parce que vous auriez immédiatement pensé à lui. Est-ce que c'est Victor Hugo, Honoré de Balzac ou Gustave Flaubert ? À votre avis, Marie-Claire ?
Non mais moi c'est surtout il y a William Lémergie qui parade là.
Non,
ils
parce
font fanfaronne.
Non mais il y a des hommes qui ont entendu ça très souvent. Oh, je sais pas ce que j'ai ce soir. J'ai la migraine. Si tu peux me laisser tranquille, oui, merci mon chéri.
C'est ça. Je ne sais pas de qui vous parlez.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marie, les copains?
Moi, à qui je pense?
Oui, non, pas à qui vous pensez. Ah oui, non, oui, pour les auteurs. Oui,
oui, excusez-moi, je sais bien dans votre émission que je suis. Donc, je pense à Flaubert.
Non, vous voulez savoir de qui vous parliez dans le privé?
Non.
Alors, moi, j'ai dit Flaubert. Hein.
Ouais.
Moi aussi, j'aurais
mais
été
attendez,
sûr.
Mais attendez, je suis pas sûr de mon coup. Hein.
Ouais, ils ont pas l'air sûrs du tout. Hein,
non, la migraine est la reine des maladies, l'arme la plus puissante et la plus plaisante employée par les femmes.
Est-ce que Balzac était un homme infâme? Très bien. Flaubert, et le troisième, c'est qui?
C'est Victor Hugo.
Non, ça, c'est pas Victor Hugo. Non.
Victor, il aurait pas dit ça.
Non,
père
pas,
de,
non,
père c'est de France.
Non, franchement, non. Non, peut-être Balzac.
Allez, un coup Balzac, un coup Flaubert. Mélanie.
Et moi, j'ai pas le droit de parler parce que
pourquoi
je connais la réponse. Alors, est-ce que je peux.
Ah, bah non, vous
je dirais,
pas.
C'est pas Hugo. Voilà.
Ah, bah écoutez, on avait raison déjà. Ah,
voilà. Déjà, c'est ça.
Ouais. Alors, non, elle est difficile. Je vous ai demandé ce que vous faisiez avant d'être à la retraite.
Oui. J'étais comptable.
Être comptable.
Donc, rien à voir.
Plutôt matheuse que littéraire, alors.
Bon, exactement.
L'un n'exclut pas l'autre, parfois.
Attendez.
J'ai un petit penchant pour Flaubert. Attendez,
Marie-Claire, attendez. Parce que j'étais en train de me dire que Balzac buvait beaucoup, beaucoup de café. Et peut-être qu'il buvait du café à cause de la migraine, je sais pas, j'ai réfléchi. Non, c'est pas ça.
C'est un bon indice. Hein.
Écoutez, moi je pense que son raisonnement est complètement foireux, mais je pense que la réponse est bonne.
Et alors, comment vous savez que Balzac...
Parce qu'on a le même âge.
Et alors
Balzac et moi.
Et alors?
Mais non, c'est maintenant, je veux dire, le même âge maintenant.
Oh, rien. Vous comprenez, vous voyez le.
Les blagues qu'on me fait régulièrement, c'est il n'est pas tout jeune, celui-là, vous avez entendu tout à l'heure quand elle parlait de l'odieux.
L'odieux visuel.
Voilà, il n'est pas tout jeune. Donc voilà, Balzac, un camarade de classe. C'est
pour ça qu'il boit du café.
Non, mais c'est pas pour, parce que j'ai lu ça pendant des années quand j'étudiais.
Ah, voilà.
Je crois que William fait un AVC. Il faut faire attention, parce que là, on le perd.
Marie-Claire, qu'est-ce que vous dites alors?
Je vais suivre William.
Ah bah d'accord, vous dites que vous me faites confiance et puis
vous avez dit la même chose.
Ouais. Merci Balzac. Merci.
Vous avez dit tous les deux Balzac.
Alors ils ont dit tous les deux Balzac, mais ils ne sont pas arrivés à Balzac avec le même raisonnement, on va dire.
Moi, c'était juste du feeling. Donc
est-ce qu'on bloque, Marie-Claire? Oh, quel soupir! Dites-moi.
Je dirais Balzac, oui. Allez.
Alors, je bloque votre réponse et on va demander à Mélanie si c'est la bonne réponse.
Oui, c'est la bonne réponse.
Bravo.
Bravo, bonne réponse.
Alors, il en parle, il donne cette citation dans son ouvrage Physiologie du mariage en 1829. Malgré son nom, le livre a été surtout une étude de mœurs plus qu'un véritable essai médical. En revanche, Mélanie, elle, est une journaliste spécialisée dans la santé.
Et dans la migraine.
Et je voulais vous parler de migraine parce qu'il y a une actualité sur la migraine de l'enfant. C'est pas très connu, mais en fait, ça touche 8% des enfants, la migraine. C'est-à-dire 1 million de Français quand même, c'est beaucoup. Autant des adolescents que des petits. Et en fait, l'association La Voix des Migraineux vient de lancer une campagne à ce sujet, notamment pour sensibiliser aux difficultés dans la scolarité des jeunes concernés par cette maladie et surtout pour faire davantage connaître ce mal. Parce que malheureusement, la migraine chez l'enfant, aujourd'hui, elle est très mal diagnostiquée. Pourquoi ? Parce que même si c'est la même maladie neurologique que chez l'adulte, chez l'enfant, elle peut avoir des formes différentes. C'est-à-dire que les symptômes, au départ, ne sont pas forcément les mêmes. Un enfant qui souffre de migraine, il ne va pas tout de suite dire « j'ai mal à la tête ». Parfois, la crise de migraine débute par une pâleur avant que la crise de migraine survienne. Il peut y avoir également des douleurs au niveau du ventre. L'enfant va se plaindre du ventre et en réalité, c'est une crise de migraine. Tout dépend là, il y a des enfants de 2-3 ans qui peuvent être concernés. Ils ont du mal à décrire que ça vient dans la tête. Ils ont mal, tout simplement. ans. Donc c'est difficile et parfois ils traînent ça pendant des années avant qu'on mette le mot « c'est une migraine ». Aujourd'hui, cette association en fait souhaite mettre l'accent là-dessus, déjà pour que les parents y pensent, consultent et disent « docteur, peut-être… » Enfin, les docteurs doivent y penser également, bien sûr, mais penser à la migraine, déjà, c'est une bonne chose. Et puis, ils insistent aussi sur le fait que ces enfants-là, bien évidemment, ont des répercussions sociales, comme les adultes aujourd'hui qui ont des migraines au travail, c'est difficile. Eh bien, à l'école, pour ces enfants-là, c'est compliqué aussi. Il y a beaucoup plus d'absentéisme chez les enfants qui souffrent de migraines, voire même des décrochages scolaires. Donc, ils insistent sur le fait qu'il faut connaître un dispositif légal qui existe aujourd'hui pour les enfants qui ont d'autres maladies, y compris. C'est le PAI, c'est le plan d'accueil individualisé. Et en fait, quand on a un enfant qui souffre de migraines, on peut le demander. Ce sont des aménagements pour cet enfant. Par exemple, le prof est autorisé à donner des médicaments.
On sait pourquoi les enfants souffrent de plus en plus.